Bonjour cher Jean Avezou.
Bonjour madame.
Et bonjour à Louis qui nous accompagne dans son bocal intersidéral. Et bonjour surtout, peut-être surtout, avant tout, à Jennifer Anderson qui est notre invitée, conteuse. Et Jennifer Anderson, qu'est-ce que ça sonne ? Alors moi je suis toujours étonnée qu'on nous écoute à la radio, je trouve ça merveilleux qu'on puisse nous écouter, et donc si vous êtes là c'est vraiment merveilleux, si vous n'êtes pas là c'est pas si grave parce qu'on est en très très bonne compagnie, mais savoir que la radio ça s'écoute et que vous nous écoutez, ça me fait un truc qui ressemble aussi à Charlie Mingus, parce que moi j'adore écouter la radio, j'ai presque envie de ne faire qu'écouter la radio quand je... suis avec vous dans les démons de midi, bon. mais je vais me taire, je vais écouter. Jean, vous avez fait le portrait de notre invité ?
Oui.
Eh bien, nous l'écoutons.
Pas facile de tracer le portrait d'une personne qui se présente comme conteuse. Une conteuse, par définition, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Et c'est là que la difficulté commence. Je me retrouve dans la position de celui à qui elle dit « je mens ». Comment la croire ? Intenable situation paradoxale. Loin de moi l'intention de faire d'entrer un mauvais procès à une personne que je ne connais pas et qui, au demeurant, n'est pas sans charme. Les auditeurs qui ont l'image peuvent s'en rendre compte par eux-mêmes. Mais quand même. Et le fait qu'elle puisse invoquer sa collaboration avec des partenaires variés, dont des scientifiques, ne suffit pas. Trêve de suspicion, sincère ou fabulatrice, c'est elle qui se désigne ainsi. Elle en a raconté des histoires et elle continue dans des lieux souvent insolites avec des publics qui ne le sont pas moins, cherchant à mettre en lumière l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est une formule d'elle. Hein. Et elle réussit à embarquer ses auditoires, non seulement à la suivre, mais aussi à collaborer à ses histoires, ce qui est encore plus fort. Conteuse, mais pas seulement. Elle est aussi quelque peu magicienne, ce qui n'est pas déplaisant. Et navigatrice aussi, car elle affirme se situer entre quête et odyssée. Encore une belle formule. Mais revenons à la question, peut-on la croire ? Peut-on croire qu'elle a vraiment envie de rejoindre son Ithac ? Certainement pas. Surtout qu'en livrant le portrait qu'elle propose d'elle, on la découvre renversée, rêveuse, débordant largement d'une mémoire de bébé. C'est un bien étrange portrait. On peut donc en déduire que si la Méditerranée a suffi à Ulysse, à elle, il faut beaucoup plus vaste. Et se fixe-t-elle vraiment un horizon ? Elle va peut-être nous le dire, à moins qu'elle nous raconte encore une histoire.
C'était le portrait de Jean. Pouvez-vous y réagir, y répondre ? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ?
Ben merci, c'est comment dire ? C'est la première fois en fait qu'on me fait le portrait comme ça, donc c'est... on a l'habitude dans la vie qu'on vous tire le portrait, mais avec des mots, surtout quand on ne se connaît pas, parce qu'effectivement c'est la première fois qu'on se voit.
C'est pas vrai.
Bah si, je crois bien. Ah si.
Vous manquez de mémoire.
Si. Donc voilà, c'est toujours... assez touchant et aussi révélateur d'avoir un éclairage comme ça différent. Bah ouais, cette baignoire de bébé. C'est vrai, débordant de cette baignoire de bébé. Oui, il y a quelque chose là, hein, certainement, qui raconte peut-être, enfin pour moi en tout cas, oui, que ce qui m'intéresse en tout cas dans le récit, c'est comment le récit est plus vaste que nous, même s'il part de nous et qu'il parle de nous.
Eh bien, c'est ce que l'on va faire, du récit vaste et parler de vous et de nous. Si vous deviez vous présenter en un tout petit conte ou en 30 secondes, que diriez-vous aujourd'hui ? Quelle est votre météo intérieure ? C'est tellement à la mode dans les RH.
Alors, ma météo intérieure, bah, ça va bien. Par contre, si je dois me définir au travers d'une histoire, ça serait un peu plus que 30 secondes. Mais si vous m'autorisez, j'ai envie de vous la raconter parce que c'est quand même une sacrée belle histoire.
Allez,
de toute façon, je raconte que des belles histoires. Vers la fin de sa vie, Kafka habite à Berlin. Et juste à côté de chez lui, il y a un grand, grand parc où il a l'habitude d'aller se promener les après-midi. Et voilà qu'une fois, il tombe nez à nez avec une petite fille complètement en larmes. Donc Kafka s'approche de l'enfant puis lui demande « qu'est-ce qui se passe ?» Et la petite fille lui dit « j'ai perdu ma poupée ». Et Kafka, sans réfléchir du tac au tac, lui dit « mais tu sais, ta poupée n'est pas perdue. Elle est partie en voyage. » En voyage ? Mais comment vous savez cela ? « Eh bien, je le sais parce qu'elle m'a écrit une lettre. » « Quoi ? Vous voulez dire que ma poupée vous a écrit une lettre ? Montrez-la-moi. » Et puis Kafka, évidemment bien embêté, explique à l'enfant qu'il a dû partir précipitamment de chez lui, mais que demain, à la même heure, au même endroit, c'est promis, il revient avec la lettre. D'accord. Et les voilà qui se séparent. Kafka rentre chez lui et tout de suite se met au travail. Et puis le lendemain, à la même heure, au même endroit, comme convenu, il revient avec la lettre dans le parc. La petite est déjà là, assise sur le banc, qui l'attend. Et comme elle ne sait pas lire, Kafka lui fait la lecture de la lettre. Et dans la lettre, eh bien, la poupée m'explique à la petite fille voilà, qu'elle l'aime énormément, mais elle était un peu fatiguée de vivre tous les jours au même endroit, de voir tous les jours les mêmes visages. Elle avait envie de voyager, de découvrir le monde. Mais comme elle l'aime énormément, elle lui promet de lui écrire chaque jour une lettre pour lui raconter toutes ses aventures. Et pendant 3 semaines, Kafka va venir chaque jour dans le parc et faire la lecture de la lettre racontant toutes les aventures de la poupée. Alors évidemment, à mesure que le temps passe, que les semaines passent, le chagrin de la petite fille s'envole. Et puis au bout des 3 semaines, Kafka se dit « bon, il va quand même bien falloir que je mette un terme à toute cette histoire ». Et c'est comme ça que lui vient l'idée, dans la dernière lettre, de marier la poupée. Alors la poupée raconte comment elle a rencontré l'homme de sa vie. Elle lui décrit la petite maison en pleine campagne où désormais ils vivent. Elle lui raconte la fête, les noces, les amis. Et puis à la fin de la lettre, elle lui dit « ben voilà, il est temps qu'on se sépare, qu'on se dise au revoir ». Sois certaine d'une chose, c'est que tu as compté énormément pour moi. Et jamais, jamais je ne t'oublierai. Cette histoire, qui a été racontée à l'époque par la dernière femme de Kafka, a été racontée à son tour par un autre auteur américain qui s'appelle Paul Auster. Et Paul Auster dit à peu près ceci, il dit finalement, ce que Kafka a offert à cet enfant est bien plus qu'une poupée. Ce qu'il lui a donné, c'est une histoire. Et quand on a la chance de vivre dans une histoire, alors les peines de ce monde disparaissent.
Je vous avais dit qu'elle était conteuse, qu'elle allait nous mener par le bout de je ne sais quoi. Et qu'il fallait être vigilant, Jean, vigilant.
Mais je vigile. Mais... J'ai pas bien compris, elle a présenté ça comme son portrait, mais elle est la petite fille, elle est Kafka ou elle est la poupée ?
Moi j'ai bien peur qu'elle soit les trois.
Exactement, ouais.
Je dis pas.
Mais il va nous falloir 3 heures, mon gars.
C'est pour ça que je déborde de la baignoire.
Oui, ça va déborder dans les démons. On n'a pas fini. Alors, nous avons quand même quelques questions. Nous voulions vous mettre un peu sur le grill, parce que nous sommes démons. Qui dit démons dit Lucifer, un peu, dit diablotin, en tous les cas. Et alors, les diablotins ont quelques questions. La première était de Jean.
Oui.
On ouvre la porte de l'enfance.
Oui, la petite fille.
La petite fille.
T'as vu ces enchaînements?
Oh là là, de dingue, cette émission de dingue.
La petite fille nous a dit que quand elle était petite fille, elle voulait faire de la danse. Alors, où est-elle, la petite danseuse, aujourd'hui?
Elle est toujours là, même si ça se voit de moins en moins avec les années. Hein. Mais elle est toujours là. Oui. Comme je dis toujours, j'ai voulu devenir... Parce que c'est pas que je voulais faire de la danse, c'est que j'ai fait de la danse. Mais je voulais devenir petit rat de l'opéra. Et comme je dis, je suis restée petit rat, mais pas de l'opéra.
Et si vous deviez garder une odeur et une couleur de l'enfance, qu'est-ce qui vous vient ce matin ?
Ah, tout de suite, sans réfléchir, c'est l'ascenseur roux combalusier avec la moquette rouge. Quand j'étais petite fille, je devais avoir une dizaine d'années, c'est l'époque de la primaire. Et je me souviendrai toujours, il y avait cet ascenseur avec cette odeur si particulière. Et où on s'est raconté des tas d'histoires. Enfin bon, c'était un immeuble extraordinaire, des années d'enfance fabuleuses. Et donc, ouais, c'est ça, ce serait cette odeur-là, de cet ascenseur.
Une odeur et une couleur d'ascenseur.
Et rouge, ah, il est rouge, bien. Ouais, rouge, avec tous ces boutons-là, chromés.
Ah, ça ressemble à ici, quoi.
Un peu, ouais, un grand miroir.
Ouais, oui, c'est tout à fait ça.
Ces portes en éventail. Et cette odeur si particulière, que dire, c'est difficile à définir comme odeur, mais qu'est-ce que... Une odeur de moquette, forcément, un peu. De renfermé, mais pas que. Avec un peu de grand frais dedans, c'est pas...
Un ascenseur vers le grand frais. Waouh, on est bien. Et quelle place tenaient les arts et la culture dans cette enfance ? Vous étiez baignée de tout cela déjà ? Ou pas ?
Je pense, oui, que j'ai été baignée par... D'abord, j'ai eu une grand-mère... la mère de mon père, une grand-mère paternelle qui était assez excentrique et qui était mordue de comédie musicale. Donc j'ai eu la chance d'aller voir des spectacles, des troupes de Broadway, de Progay and Bess. Enfin, j'ai des souvenirs de petite fille quand même où j'ai bien rêvé quoi, sur une comédie musicale. Hein. Les arts plastiques aussi beaucoup, parce que ma grand-mère, mon père, voilà, peignait, voilà, mais c'était, c'était sans y penser en fait, quand on est dedans on le voit pas en fait, je pense qu'on n'y fait pas attention, c'est plus tard qu'on se rend compte.
On vous racontait des histoires ?
Je pense que cette grand-mère complètement fantasque m'en a raconté quand même un certain nombre, oui, ça c'est sûr. Mais pas dans le sens « il était une fois », des contes, etc. Ces histoires, elles, ces histoires de vie, elles venaient des États-Unis, donc elle avait mille et une choses à me raconter. Voilà, donc oui, on m'en a raconté, enfin, surtout cette femme, ouais.
Ah, c'est à moi.
Bah oui. Quand je vous regarde comme ça, c'est alors, que je vois quelque chose.
Alors, mais si vous n'étiez pas conteuse, oui, qu'est-ce que vous seriez, à part petit rat ou grand rat, hein, bien sûr, on passe.
C'est difficile hein, de répondre à cette question.
C'est pour ça qu'on la pose.
Ben, j'en sais trop rien. Qu'est-ce que je serais ? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas.
Non, elle sait pas.
Non, je sais pas. Ben, en tout cas, certainement, quelque chose qui a à voir avec le contact, avec les autres. Ouais, quelque chose dans le lien. Ouais.
Donc, si vous n'étiez pas conteuse, vous seriez conteuse.
Entre autres.
C'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Et comment est-ce que vous avez fait le pas vers le théâtre d'abord, c'est cela ? Ou la danse, ou les deux ? Comment est-ce que ça s'est passé ?
J'ai commencé donc très très tôt la danse. Voilà.
On était d'accord pour ça, voilà. Autour de vous.
Oui.
C'était votre choix et on l'accompagnait.
Oui. Il n'y avait pas de souci. Donc voilà. Et puis le théâtre, j'ai commencé en primaire en fait. Avec à l'époque, ça s'appelait le théâtre d'Île-de-France, dirigé par Brigitte et Jacques Sartou. Qui étaient des grands spécialistes, notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre jeune public. Et voilà, donc j'assistais à des cours. Enfin, c'était pas, on n'appelle pas ça des cours quand on est enfant, mais voilà. Donc tous les mercredis, j'étais dans cette compagnie. Et mais c'est un théâtre qui m'allait bien parce que ça a été au départ vraiment surtout un travail en lien avec le corps. Bon, évidemment, au théâtre, hein, c'est quand même très lié, malgré tout, même si on blablate. Avant les mots, il y a quand même la question du corps. Donc ça m'allait bien parce que, comme vous l'auriez peut-être lu, voilà, j'étais, ce qui est assez fou pour une conteuse aujourd'hui, mais extrêmement timide et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à parler, à m'exprimer verbalement en tout cas, et oralement, oui.
Incroyable. Ah bah, qui l'eût cru ah bah, en oui. vous écoutant aujourd'hui.
Une question un peu indiscrète, là.
Oui.
Vous racontez des histoires, c'est comment ça, bon, tout. Mais vos amis vous disent pas de temps en temps, hey, « Eh oh, Jennifer, arrête un peu tes histoires ?»
Non, parce que d'abord, quand je suis avec mes amis, j'écoute plus que ce que je raconte, quand même. Et puis, pour pouvoir raconter, il faut savoir aussi beaucoup écouter, en fait. C'est un peu... Ça va ensemble. Donc, non. Non, il y en a plutôt qui me disent « Mais c'est quand qu'on peut t'écouter, plutôt ?»
Ah, oui, c'est Vos amis sont obligés de venir vous voir sur scène pour vous entendre, vous raconter.
Oui, enfin, il n'y a pas de... Vie. Non, oui. C'est pas ça, mais c'est qu'on est sur d'autres choses, d'autres modes. Voilà, après, in situ, de manière... voilà, bien sûr que je peux me mettre à raconter une histoire... en écho, comme ça, à une situation ou une confidence ou quelque chose, parce que ça, j'ai l'impression que ça représentera mieux et ce que je pourrais penser et aussi la place que l'autre peut y trouver. C'est difficile de donner des réponses parfois quand on nous en demande. Et c'est vrai que les histoires, je trouve, ont cette faculté extraordinaire de pouvoir apporter, non pas une réponse, mais un point de vue qui, en plus, change en fonction de qui le raconte et de qui le reçoit, et des instants de la vie, des périodes, des moments de nos vies, quoi. Une même histoire peut avoir... On peut l'entendre et la comprendre, la saisir, la vivre, la respirer de manière complètement différente suivant... l'époque et suivant notre météo intérieure, comme tu disais tout à l'heure.
Alors, vous disiez dans votre biographie qu'il y a eu un moment de cap où vous l'avez changé, le cap, entre le théâtre et puis le récit et le conte. Qu'est-ce qui fait que ça a basculé et quelle est la différence pour vous entre le fait d'être une actrice, une comédienne qui se vouait au théâtre ou qui allait devenir femme de théâtre et... le conte et le récit.
Qu'est-ce
qui a fait le déclic ?
Alors, le hasard, déjà. Le hasard. Ce drôle de hasard, hein, dans la vie. Et puisque c'est complètement par hasard que j'ai poussé un jour... Moi, j'avais... Alors, venant du théâtre, puisque j'ai travaillé pendant longtemps au théâtre, j'ai travaillé notamment avec... le théâtre, j'ai joué dans pas mal de classiques, notamment des Molières. Évidemment, j'ai fait Zerbinette avec le rire que j'ai, vous imaginez. Avec le théâtre de... Oh, je vais le dire. Zut, bon, ça me reviendra dans les Hauts-de-Seine. Et donc, forcément, pour moi, le conte, quand j'en ai entendu parler... dans sa pratique, en tout cas, c'était plein de préjugés, de clichés, de stéréotypes hein, qui sont encore très, très prégnants, très forts sur... d'abord, c'est que pour les enfants, c'est un peu chiant, c'est un peu ringard, c'est un peu poussiéreux.
C'est moraliste.
C'est moraliste, etc. Mais on reviendra... Ah, la notion de morale, je trouve, est très intéressante. Bon, bref. En tout cas, voilà, j'avais tout ça. Mais j'ai pour moi que je suis quelqu'un quand même... de très curieux. Et donc,
c'est le rat.
Du coup, c'est le rat. Et du coup, j'ai eu envie quand même de pousser la porte d'un atelier de pratique amateur. Et en fait, j'ai trouvé ça juste renversant, notamment sur la question du répertoire. Parce que le répertoire de la littérature orale forcément nous ramène à ce qu'on appelle la littérature avec un grand L, n'est-ce pas ?
Mais qu'est-ce que c'est que la littérature orale ? Comment la littérature peut-elle être orale, et sauf quand on la lit.
Eh bien si, elle se transmet, elle s'est d'abord transmise de génération en génération. Et il a fallu, effectivement, il y a, voilà, qui est des chercheurs, des gens qui soient intéressés par ce patrimoine-là, des folkloristes, mais pas que, pour justement retranscrire toutes ces histoires et toutes ces versions voilà, dans le monde entier. Mais avant tout, c'est oral, parce que justement, ça ne passe pas par l'écrit. Or, on est dans une culture, nous, hein, français, en plus, très forte de l'écrit. Donc, cette littérature orale, c'est extraordinaire. C'est Salman Rushdie, c'est Haroun et la mère de toutes les histoires. C'est il faudra plusieurs vies pour faire le tour de tout ça, quoi, si seulement c'est possible. Mais c'est, ouais, c'est immense. Je sais plus quelle était la question.
Non, mais vous y avez très très bien répondu. Le théâtre, de passer du théâtre au récit, on est encore une fois, on s'est fait mener en bateau, rouler dans la farine d'un petit rat. Oui, c'était la bonne réponse. Il n'y a jamais de bonnes questions, mais toujours de bonnes réponses. Eh bien, vous écoutez l'émission Les Démons de Midi, c'est sur Radio Campus Grenoble 90.8, si je ne dis pas de bêtises, ça. Qui accueille aujourd'hui Jennifer Anderson. Et nous continuons par un petit moment de musique. Ah bah oui, bien sûr. Alors, vous êtes aussi responsable, je cherchais le mot, mais allez, responsable. On va vous demander d'assurer la playlist et le programme musical de cette émission, parce qu'il y a aussi de la musique et pas que des mots qui chantent quand vous les dites. Et vous avez choisi Bach, mais vous allez nous dire pourquoi, comment, quoi, comme un morceau qui vous accompagne et qui pourrait nous accompagner aujourd'hui,
ah
nous
bah
aussi.
Oui, j'espère, hein.
Dites-nous, vous voulez l'écouter d'abord et puis en parler après ?
Peut-être, oui, c'est bien.
Alors on écoute et on découvre ensemble. Continuer, mais commenter dessus, c'est possible aussi.
Et voilà, j'en ai la chair de poule, les frissons partout. Ben, j'ai choisi ce morceau parce que la question c'était ça, c'était un morceau qui t'accompagne. Et voilà, parce que c'est très très difficile de choisir un... Enfin, moi j'aime tellement de choses, puis tellement dans des... tellement différentes, quoi. Mais qui accompagne, c'était quand même assez précis. Et donc, c'est vrai que les suites pour violoncelle, c'est très très intime. Dans le sens... Je pense qu'elles sont là depuis mon enfance, avec quand même un moment très très fort et extrêmement présent pendant mon adolescence. Voilà, avec toute une période de vie. Et puis c'est effectivement une musique qui me suit, quoi, tous les moments importants, tristes, gays, de doute, juste pour me détendre, me recentrer. Voilà, c'est vraiment... Alors après, il y avait plein de mouvements, donc c'est sûr, hein, les suites pour violoncelle, celui-là, il est extrêmement connu, mais si on allait jusqu'au bout, Puisqu'on est sur les démons de midi. En fait, il me fait penser, moi, à l'orgasme. Parce qu'il y a quelque chose de voilà, on est... qui tourne, qui se cherche. Et puis, il y a ce point culminant, si on va jusqu'à la fin de ce mouvement-là, où vraiment, ça se termine. Voilà, et ça me fait vraiment penser à ça, à ce moment de l'orgasme, du plaisir, quoi. Où on se retrouve et où on se perd en même temps.
Bon, eh bien... Ah. On reste sans voix. Hein.
Pas si facile hein, d'être démon aujourd'hui.
Ça me laisse. Bon, mais on va se ressaisir. Alors, c'est le moment de passer à la question étrange venue d'ailleurs. Nous avons demandé à une personne qui vous connaît bien,
ah oui,
Marie-Christine Bras, de vous poser une question amusante ou indiscrète.
Sienne, quoi.
Ouais, sa question.
Qui est cette dame?
Ah ben, Marie-Christine, c'est... comment la définir? C'est plus qu'une amie. On s'est connus, voilà, j'avais 17 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un de... Je ne sais pas, c'est comme un prolongement de moi. C'est... Voilà, je pense que c'est quelqu'un avec qui je vais vieillir, avec qui, voilà, on se suit. C'est un des cadeaux de la vie, comme ça. Je pense que dans nos vies, on a des gens qui ne sont pas forcément ceux de notre famille de sang, mais qui sont là, indéfectibles, quoi qu'il se passe, avec qui on peut tout partager, avec qui on peut tout faire. Et en plus, il s'avère que Marie-Christine, c'est ma complice aussi de théâtre, puisque c'est au théâtre qu'on s'est connus quand même, et qui est aussi ce qu'on appelle le regard extérieur, mais c'est bien plus que regard extérieur, c'est vraiment une complice, quoi, aussi de travail. On partage les mêmes, pas mal de mêmes passions, quoi.
Voici sa question.
Jennifer, peux-tu me citer 5 noms de personnages qui figure dans les Mille et Une Nuits?
Waouh! 5 noms de personnages dans les Mille et Une Nuits, ça va être difficile, hein, parce qu'en plus je suis nulle avec les prénoms. Bon, évidemment, il y a Sherazade, Haroun al-Rachid, il y a son frère, mais après, je ne sais plus les noms. Bah, après, il y a des personnages, donc il y a les djinns, évidemment.
C'est pas des pantalons?
Non, c'est pas ni des jeans Vincent, ni tout ça. Non, c'est... Les jeans sont les génies, en fait. Ce sont ces personnages qu'on appelle comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Sherazade, Haroun al-Rachid, l'autre prince. Il y a donc les jeans. Mais après, dans les Mille et Nuits, en fait, il y a plein d'histoires. Donc, je pourrais parler de l'oiseau de la liberté, je pourrais parler... Enfin, voilà, il y a plein c'est... de... Il y a de la montagne noire, je pourrais
c'est
parler...
C'est quand même une question un peu rosse, quoi. C'est une façon de vous dire, vous ne reviendrez pas en deuxième semaine.
Pourtant, ce n'est pas le jeu des 1000 euros.
Ouais. Mais c'est marrant comme question, c'est étonnant.
En tous les cas, ce qui est étonnant, ouais, c'est que lorsque vous parlez personnage, vous parlez aussi animal, oui, nature, oui, montagne. Pour ouais, vous, ce sont des personnages.
Ah oui. Ah ben oui.
Dans la vie, comme dans les contes, ils sont. Oui. Vous êtes un peu animiste, non?
Pas du tout, mais je pense qu'on est en train de... On a perdu ce lien. Il n'y a pas longtemps, je relisais, je refeuilletais ce livre très, très drôle de « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Lewis. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de l'intrigue. Donc, ça commence, c'est la préhistoire, quoi. Hein. Et donc, il y a un conflit générationnel. Hein. Et donc, il y a ce jeune qui, lui, est à fond pour le progrès, etc., puisqu'ils vont découvrir le feu. Et puis, il y a cet oncle qui va revenir et qui, lui, en fait, fait comprendre que, en fait, c'est la fin, quoi. C'est le début de la fin. Et de dire que, voilà, c'est foutu dès lors qu'on n'est plus... connecté avec tout ce qui nous entoure. De toute façon, nous sommes des animaux, hein. Nous sommes partie de cette grande famille, hein, et je crois qu'aujourd'hui on est en train de... parce qu'il y a urgence, qu'il y a le feu, sans forcément être dans des croyances, hein, mais scientifiquement, de toute façon, oui, de se reconnecter à ce qui nous entoure et dans quoi on vit. Enfin, on n'est qu'une toute petite partie d'un monde si vaste, quoi. Et oui, les montagnes, oui, les plantes, oui, les bêtes.
Sont les personnages des Mille et Une Nuits?
Ben, il y en a, mais dans les contes, de toute façon, bien sûr, tout peut...
Merci à Marie-Christine Bras pour cette question qui nous a emmené loin, loin.
On continue?
Ben oui, avec alors on continue, questions. Mais avec vos questions, les miennes, comment est-ce qu'on s'y prend, Jean? Ah oui, alors moi ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que veut dire itérer? Parce que vous avez créé une compagnie qui s'appelle Itérer, qui s'écrit I-T-H-E-R-E.
Très bien,
ça
ouais.
Et comment, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? D'où ça vient ça?
Eh bien justement, alors avec Marie-Christine, quand on a créé cette compagnie, il fallait trouver un nom. Il fallait lui donner un nom, hein, forcément. Et c'est difficile de trouver un nom.
Quand on est conteuse, vraiment, c'est difficile.
Ouais, c'est difficile parce que c'est un nom, c'est pour toute la vie. C'est un début, c'est le début de l'histoire. C'est Nancy Huston, hein, qui dit que c'est mon prénom, c'est la première fiction. Et oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est très important. On n'avait pas envie d'appeler ça le train bleu ou l'oiseau vert ou tout ça. Mm-hmm. Non pas que je veux me moquer, hein, c'est pas ça, mais parce que ça faisait pas du tout écho. Et voilà. Et finalement, donc du coup, on s'est posé la question. Voilà, moi, je me suis posé la question sur sur l'acte même, en fait. Qu'est-ce que je fais à chaque fois que je raconte? Même
ça,
si
c'est
les
une bonne question que les démons auraient pu vous poser.
Et ouais, qu'est-ce que je fais à chaque fois que je raconte? Qu'est-ce que, même si les formats, la forme, enfin voilà, c'est différent. En même temps, ça participe d'un même processus. Et ce processus-là, en mathématiques, c'est itérer. C'est-à-dire quand on itère vers quelque chose, ça veut dire qu'on est effectivement, en français, on dit réitérer. Mm-hmm. On tend vers un point, il y a cette notion-là de répétition, mais en même temps, c'est chaque fois différent. Exemple, quand vous ouvrez la porte de ce studio, eh bien, suivant votre humeur à vous, votre température, votre météo intérieure, suivant aussi la température de cette pièce, suivant plein de choses, tout ce qui vous traverse, tout ce qui compose l'instant, eh bien, vous n'allez jamais finalement, vous allez toujours ouvrir cette porte, appuyer sur cette poignée, etc. Et pourtant, à chaque fois, ce sera différent. Si on regarde très précisément, ce sera jamais exactement la même chose. Et du coup, voilà, c'est ça. Alors, on a mis un « H » parce que, pourquoi, à l'époque, on s'est dit, tiens, voilà, ça va...
Pour respirer.
Voilà, pour respirer, voir de l'air, et puis...
Le H ne fait jamais de mal.
Ça dépend. Normalement, si la lame est bien affûtée, ça passe. C'est quand c'est pas bien aiguisé que c'est plus... Voilà. Mais voilà, en fait, ça vient de là.
Merci. J'ai appris à écrire itérer avec un H.
Voilà. Mais donc, itérer en mathématiques, il n'y a pas de H, bien sûr. Hein.
Alors, où trouvez-vous les contes? Et est-ce que vous en inventez? Est-ce que vous en modifiez?
Je vais commencer dans l'autre sens. Je vais essayer de répondre à la première question.
Répondez
à la
donc
deuxième.
À l'envers.
Voilà, c'est ça. Je fais un. Les modifier, ça a été quelque chose. Ça a été une question qui m'a énormément, qui a été très complexe au tout début quand j'ai commencé, parce que il y avait cette question-là de se dire, mais est-ce que j'ai le droit? De changer et pourquoi en fait telle ou telle histoire, ces histoires qui se transmettent depuis la nuit des temps, pour certaines en tout cas. Donc ça a été vraiment hyper compliqué, cette question-là, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, je m'en fiche, dans le sens où ce qui est important quand je raconte ou quand j'écoute une histoire, c'est quoi finalement ? C'est là où il y a une chambre d'écho, c'est là où on va se rencontrer. C'est qu'est-ce qui fait récit pour moi ? Qu'est-ce qui fait récit pour toi, pour nous ? Moi, je suis ni africaine, je suis pas arménienne, je suis pas non plus savoyarde, je suis pas italienne, je suis pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et en même temps, donc quand je raconte une histoire, si c'est une histoire qui vient de la littérature orale, elle va avoir, je vais peut-être choisir une histoire qui va avoir une origine qu'on va pouvoir effectivement marquer sur une carte, donc aussi une culture. Mais d'abord, il faut savoir que les histoires en général ont plein de versions, ça c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, de voir comment ça change, qu'est-ce qui change d'une culture, d'un pays à l'autre. Mais c'est surtout qu'est-ce qui fait, voilà, où est-ce que ça me parle ? Et du coup, est-ce que c'est si important ? Voilà, si je raconte par exemple dans mon répertoire, on va dire... oral, je me suis rendu compte que j'ai énormément d'histoires africaines qui viennent de cet immense continent qui est l'Afrique. Et pourtant, si je vous en raconte, jamais vous allez vous dire, tiens, cette histoire est africaine. Parce que je ne vais pas, parce que j'ai laissé de côté, j'ai fait des choix. C'est-à-dire que je raconte avec ce que je suis, avec là où je vis, avec mes repères à moi. Et que je me suis débarrassée, j'ai mis de côté d'autres repères. Par exemple, même si j'adore les baobabs, mais de côté d'autres références qui ne sont pas miennes. Et du coup, j'aurais l'impression, là, pour le coup, d'être endimanchée, quoi. D'être dans un costume un peu gauche, quoi.
Déguisée,
oui, complètement. Voilà. Mais par contre, ça ne change pas pour autant l'essence même de l'histoire. Que raconte cette histoire ? Je ne sais pas si j'étais très claire.
Si.
Voilà. Si. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis l'autre chose, les histoires, en fait, moi, je fais feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. D'abord, je raconte beaucoup, beaucoup ce qu'on appelle le récit de vie. Donc, c'est-à-dire que je vais beaucoup, beaucoup écouter les gens.
Et toutes les vies peuvent devenir des contes.
Des histoires ? Ah oui, bien sûr. Il y a plein de souvent, la réalité dépasse la fiction. Bien, bien souvent.
Les tribunaux sont pleins de ces histoires.
Oui, mais tout à fait. Mais je pense que les auteurs, les romanciers, etc., sont complètement, s'inspirent en permanence de ce terreau-là, quoi, de nos vies, de trajectoires de vie. Et ce qui est intéressant, après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir... je trouve que les contes sont des formidables chambres d'écho, mais qui nous amène ailleurs, de ce qu'on peut vivre, nous, en tant qu'être humain, quoi. Mais, donc ça peut être intéressant parfois de les mettre face à face, mais j'ai envie de dire que je raconte ce qui me touche avant tout, ce qui fait sens pour moi et que j'ai envie de transmettre, quoi, tout simplement.
Déjà, non.
Alors, c'est quand même une extrême maladresse.
Le temps passe trop vite avec vous, avec lequel d'entre vous d'ailleurs.
C'est une extrême maladresse à la radio de rester sans voix.
c'est peut-être Jennifer qui nous laisse sans voix. Moi, j'avais encore une question. Jennifer, est-ce que vous apprenez par cœur ces histoires, ou est-ce que vous les réinventez chaque fois avec juste une trace, un canevas, un itéré dans lequel vous vous lancez à chaque fois vous raconter ?
Alors, il y a ce qu'on appelle une écriture orale, c'est-à-dire que
c'est ça qui m'intrigue.
Une histoire, bien sûr, on peut tout à fait... Alors, Après, ça dépend des règles, et puis ça dépend des circonstances, et puis ça dépend de la forme. Enfin, tout est possible en réalité. Moi, dans ce que je propose, dans mon travail, j'ai, on va dire, des spectacles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire où il y a vraiment un univers qui se rapproche plus d'une attente spectaculaire. Avec une dramaturgie, avec un
début,
texte,
un milieu,
avec,
une fin,
voilà, etc., etc. Mais il y a aussi ce qui fait partie du propre du conteur. Je suis là et avec mon répertoire et en fonction de qui est là, de mon énergie, de la vôtre, de ce qui se trame entre nous ou pas, je vais raconter telle ou telle chose. Là-dessus, chaque histoire est une entité. Donc, quand on commence à se dire, bah, tiens, cette histoire, j'aimerais bien la raconter, en fait. Moi, j'aime bien, du coup, me fixer plein d'explorations. Donc, me dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de commencer par un gros plan. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour moi c'est très cinématographique. Hein. Raconter une histoire, c'est comme réaliser un film. Je ne réalise pas de film, donc c'est facile de dire ça. En tout cas, de ce que j'imagine. Mais c'est pour moi vraiment une question de caméra, quoi. Où est la caméra? Est-ce qu'elle est subjective? Est-ce qu'on l'induit? Est-ce que c'est dans le champ, hors champ? Est-ce qu'on commence sur un zoom? Est-ce qu'on élargit? Est-ce qu'on est en travelling? Etc, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment, on est vraiment sur de... C'est un film, quoi. C'est un film. Parce que celui qui fait tout le boulot, quand même... Enfin, moi, quand on raconte une histoire, en réalité, on donne les rushs à celui qui écoute et le banc de montage, c'est vous qui le faites. Donc voilà. Donc la question de l'image, elle est super importante. Et du coup, ben voilà, une histoire. Effectivement, on peut commencer comme ça, c'est-à-dire on n'a pas de texte, on a la structure, le squelette, un peu comme en commedia dell'arte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on sait quels sont les personnages, on sait l'intrigue, comment ça commence, comment ça finit, s'il y a des rendez-vous, et puis après, chouf. On y va, quoi.
Ouais, c'est un peu comme l'émission Les Démons de Midi.
Oui, 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 c'est vrai qu'on est en terrain familier. Non, mais moi, je remarque quand même que non seulement elle raconte des histoires, mais en plus, elle fait son cinéma.
Vous avez dos de liné du chapeau. C'est le moment, c'est ça? Il faut sortir la casquette
ben,
du Brésil?
Peut-être, j'avoue que on a pris peut-être quelques libertés avec l'heure.
Ah, on prend toujours des libertés avec le temps. Et avec l'heure, malheureusement. Eh bien, on fait une petite virgule, comme je les aime, de Mingus. Ah. Et puis ensuite, on se pose la question venue du chapeau.
Voilà.
C'est ça. Voilà, c'est la casquette magnifique, rouge, très rouge. De Jean Avezou, dans laquelle on a mis une petite série de questions.
Ouais.
Et puis, on va vous demander de tirer de votre main innocente une de celles-ci, de la lire, et puis d'y répondre là, tout de suite, maintenant.
Aïe, 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 aïe. Alors. Ah, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Les oignons.
Ah, pour une conteuse, quand même, celle-ci. C'est un peu pâle.
Ah, mais ça, c'était spécialement pour vous. Oh là là, plein de choses, tout. Enfin, si, beaucoup de choses peuvent me faire pleurer. En fait, disons que les larmes, c'est un état, ça peut être un état de tristesse, de consolation, mais aussi de joie. Moi, je pleure de rire aussi, hein, ça m'arrive. Donc, qu'est-ce qui me fait pleurer? Après, voilà, je suis beaucoup en empathie, donc forcément, c'est quand même bien en lien. Oui, peut-être que je pleure plus par empathie que sur mon sort, en fait. Par rapport à ma météo, à moi intérieur. Ouais. Ça vous va
de... oh, ouais, c'est très, très. C'est, ça me va. Les oignons me vont, moi. Vraiment. J'adore.
Ça,
mais
quand je vous entends parler d'empathie, j'imagine que quand vous allez collecter des histoires, comme par exemple à l'hôpital psychiatrique ou ailleurs dans la vie, il faut savoir s'en défaire aussi pour pouvoir raconter une histoire. Sinon, on se liquéfie, on se perd.
Tout à fait, oui. Ah bah, c'est sûr. L'acte même de raconter déjà instaure une distance. Donc, du coup, voilà. Mais il faut aussi... c'est un savant mélange entre être dans l'empathie sans pour autant se laisser, noyer. Par des sentiments, des situations, etc. Mais ça, on a des outils, on a des moyens... Normalement, on le fait avec quand
des
même...
Des outils de professionnels.
Sinon, effectivement, c'est... Et là, on est... c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Mais si tu collectes la parole de quelqu'un, normalement, c'est quelque chose qui est réfléchi en amont et préparé, et avec des outils différents, des objectifs bien précis, et donc des chemins, même s'il y a toujours les chemins de traverse. Et tant mieux, mais voilà quoi.
C'est quand même curieux. Pour quelqu'un qui raconte des histoires professionnellement, qui nous a montré qu'elle était capable de nous raconter des histoires, quand on lui pose une question précise, qu'est-ce qui vous fait pleurer, à part les oignons?
Mais c'est précis.
Mais si, c'est précis, c'est plein de choses.
Mais oui,
c'est l'empathie, c'est l'autre, c'est le malheur, c'est la peine de, ça peut être la peine de l'autre surtout,
Même quand.
Mais la beauté me fait pleurer. Enfin moi, par exemple, je me souviens d'une exposition de Giacometti à Paris, à Beaubourg. Et je me souviendrai toute ma vie où j'entre dans cette salle où il y avait son immense femme qui marche. Et je suis rentrée, j'ai passé la porte et là, je me suis effondrée en larmes, quoi. Rien que d'y parler, là, je sens que ça monte.
Eh ben.
Voilà. Et donc, il y a plein de choses. C'est compliqué de répondre à cette question par juste l'oignon, c'est facile.
Mais l'oignon est un Giacometti.
Mais Giacometti, ça valait le coup d'insister.
Ah, bah oui, voilà. J'en sais insister.
Voilà une
J'en sais insister. Bon.
Voilà.
Oui. La chanson lamentable, obligée. On y est vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à faire dans cette émission, à demander.
On va d'autant plus insister qu'elle est très réticente.
Voilà.
C'est vous qui allez m'expliquer. Pourquoi cette insistance à vouloir passer un truc nul?
Parce qu'il faut que cette émission soit un peu nulle, quand même.
Ah, mais non, mais si vous voulez, on.
Une chanson nulle.
Mettre à
pas
l'honneur.
Tout.
Non, mais c'est du temps perdu, je trouve. Et puis c'est trop faire de. Je comprends pas qu'on mette à l'honneur, en fait, des
mais
choses.
Mais c'est pas de l'honneur.
Le fait de passer à l'antenne, c'est mettre à l'honneur.
C'est pour mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Et puis ce qui sera nul aujourd'hui pour vous, mon enfant, le sera pas du tout pour le prochain. Et c'est ça qui est amusant.
Oui. Mais bon.
Alors, quelle est votre chanson nulle? Affligeante, alors, moche.
En fait, ce qui est...
Qu'on devrait interdire à la radio.
Quand vous m'avez posé cette question, en fait, j'étais bien embêtée parce que j'en écoute pas, forcément. Enfin, je sais pas, vous écoutez, vous, des chansons moches?
Mais nul, elles
des trucs que
traverser.
Vous n'aimez pas.
La mocheté, ça nous traverse quand même, vous l'avez dit.
Ouais, mais du
vous,
coup...
plutôt la beauté,
ça traverse
ça.
Tellement que, en fait, ça n'a aucune... Enfin, moi, je... Voilà. Donc, ça m'aurait demandé de faire des recherches que j'avais pas du tout envie de prendre de temps pour ça.
Pour chercher du moche, oui.
Ah
ça,
bah ouais, non,
comprends,
franchement, pas du tout. Et après, comme vous avez vraiment insisté en disant « c'est pas possible ».
Parce que tout le monde le fait,
donc il
tout
faut
le
faire.
Cherche.
Oh, puis quand même,
tout le monde trouve.
Mais quand même, qui c'est le chef dans cette émission, hein?
C'est moi.
Donc du coup, je me suis dit, bon, sans faire de recherche, etc., un truc que je n'aime pas. Qui me dérange profondément, en fait, ce sont tous les chants patriotiques qui prônent, en chantant quand même, la haine de l'autre,
la guerre, voilà, et l'étranger aussi, l'autre, pointer du doigt l'autre. Tout ça, c'est quelque chose vraiment, j'ai beaucoup de mal, d'autant plus quand c'est fait en chantant. C'est quand même sacrément pernicieux, quoi. Vicieux. Et... Voilà, donc bah, nous, on a un bel exemple, hein. On a un hymne national merveilleux.
Alors,
heureusement que Gainsbourg est passé par là.
C'est ce que j'allais dire. On a eu un invité qui a choisi le détourner grâce
merci,
à Gainsbourg.
Merci, merci.
Vous y avez pensé aussi. Bah, mais là, je crois qu'on va avoir une version brute de décoffrage.
Ah, super.
Notre hymne. Un tout petit peu.
D'habitude, on se lève.
Oui, on devrait se lever. Et quitter votre chapeau.
Bon, ben voilà. Hein.
Voilà, après l'étendard sanglant, que nous ne lèverons pas, on peut chanter, Louis, hein, je crois.
Oui,
on est sur la bonne radio. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble. Oui, vous venez d'écouter quelque chose de moche, en tous les cas de moche pour nous et pour Jennifer Anderson, notre invitée, qui a voulu, bien sûr, retourner comme une crêpe cette petite rubrique et proposer une autre chanson belle pour faire la Nico Moche.
Bah, en fait, je me disais, plutôt que de passer un truc nul qui, voilà, et de le mettre du coup à l'honneur, pourquoi on parlait de choses qui sont, qu'on n'aime pas forcément, bien sûr, dans la vie, mais magnifiquement interprétées et écrites. Donc, je pensais bien sûr à Brassens et à cette version fabuleuse. J'adore cette artiste, Sandra Nkake. La mauvaise réputation, c'est une très très belle chanson et je trouve qu'elle en a fait une nouvelle lecture.
Cette version pour magnifique. Tous les gens de mauvaise réputation et qui y tiennent.
Ouais.
J'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Poursuivi par un cutéreux.
c'est pourquoi le taire. Le cutéreux se retrouve par terre.
Nous a bien eu. Hein. C'est la première fois qu'on écoute une chanson belle dans la rubrique chanson moche. Oui. Et tout entière. Elle nous a bien eu. Hein.
Alors, conteuse, magicienne, menteuse et sorcière.
Espèce de sorcière, est-ce que vous voulez nous dire quelle est votre actualité en ce moment? On a quelques minutes, peut-être nous dire s'il y a... Alors, du conte qui se prépare dans la marmite ou qu'il se, oui. qui s'écoute quelque part.
Regardez, la conteuse a des problèmes de mémoire.
Bah, en fait, pour ça, j'ai mon agenda. Et comme ça, ça me libère la tête pour d'autres choses. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas là comme ça en tête. Alors quoi, on est quoi là? On est quoi?
Eh bien, on est fin novembre.
Ouais, non, alors après, il va y avoir pas mal de choses au mois de décembre.
Bah, allons-y, peut-être un truc qui vous vienne. Un rendez-vous.
Sinon, on ira sur le site.
Ouais, hein, je crois que
la compagnie serrée avec
un pareil, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
De l'avoir en chair.
Oui, bon, ben non, mais voilà. Après... L'actualité quand même pour moi, c'est un travail en cours avec un conteur musicien-conteur, un formidable harmoniciste de blues, il est génial, qui s'appelle Eric Frère-Jacques. Et donc ensemble, on est en train de monter un spectacle qui s'appelle On Air. Et donc quand je suis arrivée au studio et que j'ai vu
le panneau
On Air, je me suis dit « waouh,
c'est
trop bien !»
Si.
Voilà, et qui est un hommage, un gros clin d'œil à Paul Auster, qui est un auteur, un de mes auteurs fétiches, qui pour moi est un grand, grand conteur, et qui reprend, donc on est sur du récit court et véridique, et ça se passe à New York, et ça se passe dans un studio de radio. Voilà.
Et ce sera en français ?
Ce sera en français.
Ou pas seulement ?
Non, ce sera, enfin pour le moment en tout cas, ouais, c'est en français, et voilà, et c'est un clin d'œil à Paul Auster, qui a des années de ça, avait fait un très beau projet qui s'appelait The National Story Project, et où il demandait aux auditeurs de lui envoyer des récits courts et véridiques. Il n'y avait pas de thématique imposée, mais il fallait que ce soit court et véridique. Et il a fait un recueil qui s'appelle « Je pensais que mon père était Dieu », qui rassemble un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre de ces récits qu'il avait reçus et qu'il lisait à la radio. Voilà. Et donc, nous, on fait, on fait un...
Vous nous concoctez tout ça.
On fait une sorte de, de clin d'œil à Paul Auster à travers de ça.
Oh, c'est fini. C'est fini. Bon, d'accord, c'est fini. Voilà. Il faut savoir se dire au revoir. Donc, merci Jennifer Anderson,
conteuse,
qui nous avait raconté la vie et ses surprises. Merci Jean Avzou.
Mais je vous en prie.
Merci Louis de l'autre côté. Merci à vous, chers auditeurs. Restez absolument déments à midi, à minuit, quand vous voulez, où vous voulez. On se retrouve au mois de décembre. Vous pouvez écouter cette émission, la podcaster. Et puis revenir tout près de nous avec les prochains invités et aller à la découverte sur scène, dans les mots de Jennifer Anderson. À bientôt. Au revoir.
Merci à vous.